Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite France Inter plus de Freud cette semaine, 80 ans après sa disparition, ce soir, interprétation des rêves. Freud publie l'interprétation du rêve à la fin de 1899, une sorte d'auto-analyse, il y raconte ses propres rêves, hantés par la mort de son père Jacob, 3 ans plus tôt, et par ses souvenirs d'enfance. C'est un livre de crise personnelle, de dépression, qui travaille la nature des rêves, car les rêves ont un sens, ils sont l'accomplissement d'un désir. Le livre à l'époque est mal perçu, selon Freud qui déclarait « Les éloges ressemblent à des aumônes, l'ouvrage est manifestement antipathique à la plupart des gens ». Le 1er octobre 1963, sur Paris Inter, qui deviendra cette même année France Inter, Marthe Robert, critique littéraire et connue pour sa lecture psychanalytique de la littérature, consacrait l'émission « La liberté coupable » à la science des rêves selon Freud, avec des lectures où Michel Bouquet joue le rôle de Freud, soirée d'Ivan sur France Inter.
La révolution psychanalytique, une suite d'émissions composées par Marthe Robert. Aujourd'hui, la science des rêves.
La science des rêves passe pour l'œuvre maîtresse de Freud. Ce serait trop dire que de présenter la science des rêves comme le fruit d'une trouvaille hasardeuse. Mais il y a un peu de cela, puisque Freud découvrit la signification du rêve en cherchant à percer le pourquoi et le comment des névroses. Les névroses lui avaient révélé l'importance du rêve. Le rêve lui donna la clé des névroses.
C'est grâce à une modification décisive de sa technique thérapeutique que Freud put entrevoir l'énorme valeur du rêve comme phénomène psychique. En effet, on se souvient que son analyse psychique, d'abord fondée sur l'hypnose et la suggestion, et débarrassée ensuite de ces deux procédés, se servait de certaines pratiques, objurgation du médecin, pression de la main sur le front, etc., destinées à faire surgir dans l'esprit du malade une idée liée à la cause de son symptôme. Mais une malade ayant un jour demandé à Freud de ne pas interrompre le cours de ses pensées, celui-ci se le tint pour dit. Il s'abstint désormais d'intervenir et s'achemina ainsi peu à peu vers la technique dite des associations libres, à quoi la psychanalyse doit toute son originalité.
Les malades se mirent spontanément à raconter leurs rêves, de sorte que Freud fut conduit à traiter les productions de la vie nocturne comme il faisait des autres symptômes évoqués dans le discours.
C'est qu'il existait une analogie entre le rêve et les états hallucinatoires propres à certaines affections mentales, comme la psychose hallucinatoire aiguë. Frappé de l'idée de quelques psychiatres qui voyaient dans le délire onirique une manière de réaliser un désir caché, Freud commença de soupçonner qu'il pouvait en être de même pour le rêve, et que la part nocturne de notre vie psychique, bien loin qu'elle soit absurde et anarchique, n'était pas moins sensée ni orientée que celle de la veille.
Son intuition ne se trouva vraiment confirmée que par la première analyse complète qu'il fit l'un de ses rêves. Ses rêves le fascinaient, bien plus il leur accordait manifestement une espèce de créance. Et s'étonne en constatant que certains rêves, comme celui où il passe son examen de doctorat, reviennent périodiquement.
Le rêve, pour Freud, n'est donc pas seulement un objet scientifique. Mais, comme toujours chez cet homme tendu vers une connaissance approfondie de soi-même, une source de questions étroitement liées à sa vie.
En appelant son livre « Die Traumdeutung », littéralement « L'interprétation des rêves », Freud montrait bien de quel côté il entendait se ranger. Il affirmait que le rêve a un sens et que ce sens concerne directement la personne du rêveur.
La composition de la science des rêves a demandé plusieurs années de travail. Là, donc, il était à lui-même son propre sujet. C'était de lui qu'il parlait en exposant ses idées. Lui qu'il livrait à la curiosité du public. S'il garda longtemps sa découverte par devers lui, c'est qu'elle le mettait lui-même à nu.
Tout à coup, et sans raison spéciale, le rêve a pris corps pour tout bon. Il y a un désir que le rêve cherche toujours à réaliser. Un seul désir, et qui est simplement celui de dormir. On rêve pour n'être pas obligé de se réveiller, parce que l'on veut dormir. Tant de bruit pour si peu.
Le dernier manuscrit fut expédié à l'éditeur en septembre 1899. Et le 4 novembre 1899, le livre fut mis en librairie. Mais soit que l'éditeur fût superstitieux, soit qu'il fût impressionné par le siècle naissant, soit qu'il eût compris le caractère prophétique du livre, il préféra le dater de 1900.
Pendant 18 mois, la science des rêves connut le silence presque total de la presse. De sorte que pendant 10 ans, le livre ne se vendit pas et passa inaperçu.
Pour Freud, cependant, la science des rêves eut des conséquences plus décisives qu'aucun autre de ses livres. Elle attira l'attention de quelques jeunes gens qui formèrent bientôt le premier noyau de ses disciples et, de la sorte, mit définitivement fin à son isolement.
En 1901, donc, il fit de son œuvre maîtresse un abrégé extrêmement clair. C'est à ce petit livre, intitulé « Le rêve et son interprétation », que nous empruntons maintenant pour présenter sommairement la théorie freudienne du rêve, pièce majeure de la doctrine psychanalytique et instrument de son travail quotidien.
Le rêve n'est pas un déchet inutile, insane ou morbide de l'activité psychique, comme le croient la plupart des psychologues du temps. C'est un phénomène plein de sens, dont l'absurdité et l'incohérence disparaissent dès qu'on sait l'interpréter à l'aide d'une méthode scientifique appropriée. Il exprime un souhait dont il assure immédiatement la réalisation.
Ce dont le rêveur se souvient au réveil, c'est le contenu manifeste du rêve. Le matériel que fournit le rêve, au terme de l'analyse, est appelé son contenu latent. Le processus de transformation du rêve latent en rêve manifeste, c'est le travail du rêve. Le travail d'analyse le refait exactement en sens inverse.
Les rêves peuvent être divisés en trois catégories.
D'abord, les rêves clairs et raisonnables, qui semblent empruntés directement à notre vie consciente. Ils sont fréquents, brefs et sans grand intérêt pour nous parce qu'ils n'ont rien qui frappe l'imagination.
Le second groupe est celui des rêves raisonnables, dont le sens, quoique parfaitement clair, ne laisse pas de nous étonner parce que rien en nous ne justifie de pareilles préoccupations. Ce sont ceux qui nous font nous écrier au réveil « D'où peut bien me venir cette idée ?»
Le troisième groupe comprend précisément les rêves qui ont suggéré aux psychologues l'idée d'une activité psychique réduite et inutile. Ils sont en effet obscurs, absurdes, incohérents.
À la catégorie des rêves clairs appartiennent tous les rêves d'enfants qui sont, franchement et sans détour, les désirs réalisés. Freud s'en est convaincu en notant les rêves de ses propres enfants.
Sa petite fille, Anna, s'est rendue malade en mangeant des fraises et a été mise à la diète. La même nuit, elle fait un rêve où elle prononce d'abord son nom, puis « fraise, tartine, bouillie ». Donc, l'enfant rêve qu'elle mange et voit dans son menu précisément les choses dont elle s'attend à être privée.
Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous.
Je m'ennuie beaucoup. J'arrive.
je chante.
Mais le rêve transforme une idée en image et le désir en une situation actuelle.
Qu'est-ce qui oblige le rêve à une élaboration aussi tortueuse ?
Derrière les souhaits érotiques actuels, qui s'accomplissent en quelque sorte par ruse dans les rêves, Freud, en effet, découvre le désir premier, le désir scandaleux d'inceste et de meurtre dont tout homme adulte a perdu le souvenir et qui pourtant le lie éternellement à son passé. C'est une révélation qui explique pour la première fois le sens universel et l'éternité du drame d'Édipe.
Sa destinée nous émeut parce qu'elle aurait pu être la nôtre. Nous avons tous senti à l'égard de notre mère notre première impulsion sexuelle, à l'égard de notre père notre première haine. Nos rêves en témoignent. Édipe, qui tue son père et épouse sa mère, ne fait que réaliser le vœu de notre enfance. Mais, plus heureux que lui, nous avons pu, pour autant que nous ne soyons pas névropathes, détacher de notre mère nos désirs sexuels et oublier notre jalousie envers notre père. Nous épouvantons à la vue de celui qui a accompli le souhait de notre enfance. Et notre épouvante a toute la force du refoulement qui, depuis lors, s'est exercé contre ses désirs. L'avertissement du cœur nous atteint nous-mêmes dans notre orgueil, dans notre conviction d'être devenus très sages et très puissants. Comme Édipe, nous vivons dans l'inconscience des désirs qui blessent la morale et auxquels la nature nous contraint. Quand on nous les révèle, nous préférons détourner les yeux des scènes de notre enfance.
Un rêve, interprété par Freud, c'est une aventure dont on est à la fois le témoin et le héros.
L'analyse des rêves avait été, pour Freud lui-même, l'instrument indispensable de sa propre analyse.
Pour donner une idée tout à fait concrète de la méthode que Freud, dès 1895, avait commencé d'appliquer au traitement de ses malades, nous avons donc choisi deux rêves personnels parmi les innombrables exemples qui forment le matériel de la science des rêves. Le premier, à cause de sa simplicité et du ton familier de l'analyse. Le second, pour l'admirable construction intellectuelle à quoi il donne lieu et l'émotion esthétique qui s'en dégage.
Une réunion à table. On sert des épinards. Madame E.L. est assise auprès de moi et entièrement tournée de mon côté. Elle me passe familièrement la main sur le genou. Je fais un geste pour écarter sa main. Elle me dit alors
« Vous avez toujours eu de si beaux yeux. »
Et je distingue confusément quelque chose qui ressemble à un dessin représentant deux yeux ou bien au verre d'une paire de lunettes.
Voilà le rêve, ou du moins ce que j'ai pu en noter. Je le trouve insignifiant, obscur et quelque peu surprenant. Madame E.L. est une personne avec qui j'ai eu de vagues relations d'amitié et n'en ai, que je sache, jamais désiré d'autre. Il y a longtemps que je ne l'ai plus vue et je ne crois pas avoir entendu parler d'elle ces derniers temps. Je ne rencontre dans le processus de ce rêve aucune trace d'affectivité. Plus j'y réfléchis, et moi, il me semble intelligible. Je vais procéder maintenant à mon examen introspectif et noter les idées qui me viendront sans parti pris comme sans critique.
Réunion. Table ou table d'hôte.
Je me souviens d'abord de l'incident qui a clos la soirée d'hier. Comme je quittais une petite réunion en compagnie d'un ami, celui-ci offrit de prendre une voiture et de me déposer chez moi en disant
« J'aime assez l'invention du taximètre. On le suit des yeux, on s'occupe, on se distrait. »
Quand nous fûmes en voiture et que le cocher eut disposé la vitre de manière qu'on pût lire le chiffre de 60 sous, je repris la plaisanterie. À peine avons-nous pris place que nous voici endettés. Le taximètre en voiture, c'est comme la table d'hôte. On s'y sent devenir avare et égoïste à force de songer à la dette qui augmente. Elle grandit trop vite, on a peur de ne pas en avoir pour son argent. Une autre idée relative à la table d'hôte. Il y a quelques semaines, me trouvant à table dans une auberge du Tyrol, je me mis violemment en colère contre ma femme parce qu'elle ne me paraissait pas assez réservée à l'égard de certaines personnes attablées à côté de nous dont je voulais à tout prix éviter le commerce. Je la priais de laisser ces étrangers et de s'occuper plutôt de moi. Là encore, tout se passe comme si la table d'hôte m'avait frustré. Et maintenant, je pense tout à coup au contraste entre l'attitude de ma femme à cette table et celle de Madame E.L. dans le rêve, qui est entièrement tournée vers moi. Autre remarque, ce détail de mon rêve est la reproduction d'une scène tout à fait analogue entre ma femme et moi à l'époque où je lui faisais secrètement la cour, la caresse sous la table. Elle me la fit en réponse à une lettre où je la demandais en mariage. Mais dans le rêve, ma femme est remplacée par une personne étrangère, E.L. C'est la fille d'un homme à qui j'ai dû de l'argent autrefois. Force m'est bien de constater une relation insoupçonnée entre les éléments de mon rêve et les idées subites qu'ils éveillent. Suit-on la chaîne d'association qui part d'un élément du contenu, on se trouve bientôt ramené à un autre. Les idées que le rêve éveille en moi créent des liens qui ne sont pas discernables dans le rêve lui-même. Quand quelqu'un attend qu'un autre l'aide sans y trouver lui-même avantage, n'a-t-on pas coutume de lui demander ironiquement
« Croyez-vous donc qu'il le fera pour vos beaux yeux ?»
Mais alors, les propos de Madame E.L. dans le rêve
« Vous avez toujours eu de si beaux yeux. »
ne signifie rien d'autre que « Tout ce qu'on en fait, c'est par amour pour vous. Tout vous a toujours été donné pour rien. » Naturellement, c'est le contraire qui est vrai. Le bien qu'ils m'ont fait, mes amis me l'ont toujours fait payer cher. C'est pourquoi j'ai dû être frappé hier d'avoir eu gratuitement une course en voiture. Il est vrai que l'ami chez qui nous étions hier à dîner a souvent été mon créancier. Tout récemment encore, j'ai laissé passer une occasion de m'acquitter envers lui. Je ne lui ai jamais fait qu'un seul cadeau, une coupe ancienne avec des yeux peints tout autour. Du reste, l'ami dont je parle est oculiste. Hier soir, je lui ai demandé des nouvelles d'une malade que je lui avais recommandée pour une question de lunettes. Comme je le vois, presque tous les éléments du contenu de mon rêve se retrouvent dans la nouvelle construction. Mais devrais-je encore me demander pourquoi ces épinards que l'on sert dans le rêve? Eh bien, les épinards me rappellent une petite scène de famille qui a eu lieu l'autre jour parce que l'un de mes enfants, celui-là même dont on pourrait vanter les beaux yeux, refusait de manger les épinards. La mention de ce plat établit donc un rapprochement entre ma propre jeunesse et celle de mon petit garçon. Sa mère lui avait dit
« Estime-toi heureux d'avoir des épinards. Bien des enfants seraient contents d'être à ta place. »
Le rêve était incohérent, inintelligible, dépourvu de toute valeur affective. Mais en développant les pensées qui se cachent derrière le rêve, je ressens des mouvements affectifs intenses et parfaitement fondés. Ces idées elles-mêmes se disposent parfaitement pour former des chaînes logiques où certaines représentations centrales se répètent parmi celles qui ne figurent pas dans le contenu du rêve. Il y a l'opposition entre intéressé et désintéressé, la notion de dette et celle de don gratuit. Les chevaux de pensée que l'analyse m'a révélés, je pourrais en serrer plus étroitement les fils et montrer qu'ils aboutissent tous à un nœud unique. Mais, à côté des intérêts scientifiques, il existe des raisons privées qui m'empêchent de le faire dans un livre. Après avoir compris bien des choses que je répugne à m'avouer à moi-même, il me faudrait trahir des sentiments que je préfère tenir secrets.
Le rêve non vixit que nous rapportons maintenant est l'un des plus émouvants, l'un des plus brillants aussi, de la science des rêves. L'interprétation en est plus poussée que dans le précédent, bien que les réticences habituelles de Freud n'y manquent pas non plus. Avec ses suspens, ses ombres qui se dissipent peu à peu et ses rebondissements continuels, c'est un véritable petit drame dont le développement est d'une beauté frappante. Sa place ici est d'autant plus indiquée qu'elle met en scène des personnages que nous connaissons déjà, ces maîtres et amis qui avaient joué un grand rôle dans la vie de Freud et auxquels le liaient encore des sentiments profonds, aussi profonds que contradictoires.
Je suis allé pendant la nuit dans le laboratoire de Brücke. On frappe légèrement à la porte et j'ouvre au professeur Fleischl, qui est mort. Il entre avec plusieurs étrangers, puis, après quelques mots, s'assied à sa table.
Je fais ensuite un second rêve.
Mon ami Fliess est venu à Vienne au mois de juillet, sans me prévenir. Je le rencontre, qui cause dans la rue avec mon ami défunt, Panette. Et je vais avec eux dans un endroit où ils s'assoient comme à une petite table, l'un en face de l'autre. Je m'assieds au petit côté de la table. Fliess parle de sa sœur et dit
« Elle mourut en 3/4 d'heure. »
Puis quelque chose comme
« C'est le seuil. »
Comme Panette ne le comprend pas, Fliess se tourne vers moi et me demande ce que je lui ai dit de lui. Là-dessus, saisi d'un sentiment étrange, je veux dire à Fliess que Panette ne peut absolument rien savoir puisqu'il n'est plus en vie.
Over and over again until
Oblivion, c'est un titre du dernier album du fleuron du rock indépendant américain The National. Et nous poursuivons notre soirée sur la théorie freudienne des rêves avec une émission plus récente, le 9 novembre 2012, France Inter consacrée toute sa journée à Sigmund Freud. À 14h dans la tête au carré, Daniel Fievé prend une direction plus scientifique avec son invité Jean-Claude Amezen et le pédopsychiatre et psychanalyste François Ansermet.
François Ansermet, Freud publie son ouvrage intitulé « L'interprétation des rêves » fin 1899. Alors il le date même de 1900 parce qu'il voulait vraiment l'ancrer dans le siècle qui venait. Ce livre, « L'interprétation des rêves », on peut le considérer comme le texte fondateur des théories de Freud ?
Bon, on peut considérer que la psychanalyse s'est fondée à partir de trois éléments principaux. Une partie, c'était le but de Freud, de construire une théorie globale du cerveau et de la psyché. Il a écrit d'abord une esquisse pour une psychologie scientifique et c'était une tentative vraiment de neuroscientifique, de produire une pensée qui permette de saisir un lien entre le cerveau et la vie psychique. Une autre source qui est importante, puisque vous avez parlé de Charcot, c'est l'hystérie. On peut dire que les hystériques ont été, d'une certaine manière, celles qui ont permis de penser la psychanalyse pour Freud. C'est des fondatrices. Et la troisième voie, c'est l'interprétation des rêves, où Freud était, peut-on dire, d'une certaine manière, son propre patient. Il a utilisé ses propres rêves pour construire un savoir nouveau. Ces trois voies ont abouti pour Freud à la constitution d'une hypothèse fondamentale qui est celle de l'inconscient. C'est une hypothèse. C'est pas un fait biologique ou un fait qu'on peut le discuter, on peut le travailler, mais c'est d'abord une hypothèse.
Mais alors, le rêve, c'est la preuve de l'existence de l'inconscient ou c'est une passerelle vers cet inconscient dont il fait l'hypothèse?
Pour Freud, le rêve, c'est la voie royale d'accès à l'inconscient. L'inconscient se manifeste. Pour lui, cette chose énigmatique qu'est l'inconscient se manifeste à travers le rêve, le lapsus, l'acte manqué, toute la psychopathologie de la vie quotidienne qui nous surprend chacun dans notre vie. L'inconscient, c'est sous le signe de la surprise, des surprises de l'inconscient. Et également le symptôme névrotique, par exemple la paralysie hystérique, la conversion ou la phobie ou d'autres.
Jean-Claude Amezen, avant que Freud ne décide de s'intéresser comme ça au rêve et de considérer que c'était la voie royale vers notre inconscient, est-ce qu'il y avait eu des recherches, des questionnements sur les rêves? Comment on les percevait, ces rêves?
Il y a cette idée très ancienne depuis l'Antiquité que les rêves sont une forme de communication avec le surnaturel ou le non-naturel, et en particulier que les rêves prédiraient l'avenir. Et puis après apparaît, il y a des études durant le 19e siècle sur, par exemple, à quelle période du sommeil est-ce qu'on rêve? Est-ce que le dormeur rêve en permanence ou pas? Donc il y a des physiologistes qui réveillent les personnes qui dorment pour savoir si c'est à un moment particulier ou si c'est en permanence. Et puis Freud dira que la vieille idée que les rêves parlent de l'avenir a été abandonnée, ce qu'il appelle l'idée mythologique, que c'est la psychologie maintenant qui s'occupe du rêve, et qu'au fond, la psychologie en a fait quelque chose d'assez banal. C'est que les rêves naissent des sensations que nous avons pendant le sommeil, soit de l'intérieur du corps, soit de l'extérieur du corps, ce qui est vrai. Et il dit de manière assez jolie, et ça a tellement réduit l'idée qu'on se fait du rêve, que le rêve est aujourd'hui en recherche d'explications. Et il va dire d'une manière très jolie que la vieille notion populaire que les rêves nous parlent de l'avenir, prédisent l'avenir, est en fait fondée. Simplement, l'avenir dont il nous parle, c'est pas l'avenir qui va se réaliser, c'est le désir d'avenir qu'on a, c'est-à-dire l'avenir dont on aimerait qu'il se réalise. Donc il y a eu beaucoup de travaux. Moi, ce que je trouve très 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 beau, ça reprend d'ailleurs une partie de ce que les prédécesseurs de Freud et Freud lui-même a pris. Dès Aristote et Platon, il y a des interrogations non métaphysiques sur le rêve. Et par exemple, Platon écrit dans La République que les rêves, c'est la partie la plus animale, la plus sauvage de l'âme, qui dès que la partie raisonnable s'endort, ressurgit, emplit des désirs inassouvis. Donc cette idée, au fond, que les désirs inassouvis ressurgissent, elle est très ancienne. Aristote dit, les rêves, ça n'a rien de surnaturel, ça nous parle de l'avenir, c'est un peu comme ce que dit Freud, mais c'est pas étonnant que l'avenir dont ça nous parle ne se réalise pas. Il dit, c'est comme quand vous regardez le ciel, vous avez des signes qui annoncent la pluie, et puis il se peut qu'à cause d'autres événements, la pluie ne survienne pas. Et donc Aristote, de manière assez ambiguë, c'est pas comme Freud, c'est pas les désirs anciens, c'est pas le passé. Freud dit, le rêve, c'est comme un commencement d'avenir. Et ces commencements, ben, il nous parle de ce qui naît en nous, mais pas de ce qui arrivera après. Donc il y a à la fois, je pense, chez Freud, quelque chose de profondément original, de profondément révolutionnaire qu'évoque François Ansermet. Et il y a en même temps, et il en est conscient en partie, il le dit en partie, il y a une synthèse sur des préoccupations, je dirais, qui agitent l'humanité depuis les temps les plus anciens. Il y a un point que j'ai toujours trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle, et ce qu'il appelle au début le préconscient, hein, puisque ça va à la conscience, puis l'inconscient, ça pose la question de savoir si le rêve est un état de conscience ou pas. Et donc, pour les neurosciences modernes, le rêve est un état de conscience, comme la conscience de l'état de veille, simplement, c'est pas la même conscience. Et donc, est-ce que c'est l'inconscient qui arrive pendant le rêve, ou est-ce que c'est un état de conscience qui ne survient que pendant le sommeil et rarement à l'état de veille, qui nous dit quelque chose que notre conscience de l'état de veille ne connaît pas?
François Ansermet brûle de réagir, semble-t-il.
Oui, parce que c'est effectivement, le rêve peut être vu aussi comme une réflexion sur le temps et le désir. Le rêve met en jeu, comme vient de le dire Jean-Claude Ameisen en faisant une histoire des conceptions du rêve, la question du désir. Et la question du désir, en tant que, à la fois, sourcé dans le passé, un désir qui cherche à se satisfaire, et en même temps, un désir qui va vers l'avenir. Donc, il y a une question très complexe sur le temps. On rejoint peut-être même Saint-Augustin, c'est-à-dire c'est le présent du passé, le présent du présent, et le présent de l'avenir. Et que, pour Freud, c'est d'ailleurs la dernière phrase de l'interprétation des rêves, il s'interroge de nouveau sur le fait de savoir si le rêve peut être une voie pour la connaissance de l'avenir. Et il dit, il ne saurait nullement en être question. Mais on aimerait dire plutôt pour la connaissance du passé. Donc le rêve est tourné vers le passé. Mais en même temps, le rêve met en jeu un désir. Un désir qui a une cause, la cause du désir, comme le disait Lacan, et une visée. La visée du désir. La visée du désir n'est pas forcément la même chose que la cause du désir. Donc le rêve, il est la réalisation, il met en jeu la réalisation d'un désir refoulé. Or, Freud pose ce désir comme indestructible. Il dit, il termine l'interprétation des rêves là-dessus. Mais à cet avenir que le rêveur prend pour le présent, vous voyez la complexité, l'indestructible désir donnera un visage à l'image exacte du passé. Pour Freud, le rêve a, comme vous l'avez mentionné rapidement, enfin, un côté rébus, quoi. C'est une fabrication.
C'est le mot employé par Freud, hein, le rébus. Il faut décrypter ce rébus.
Il faut décrypter ce rébus. Il est fait de petites pièces, de détails, de fragments. Et Freud appelait ça le travail du rêve, qui est un travail de déformation avec deux éléments très importants qui sont d'un côté la condensation et de l'autre le déplacement. La condensation, c'est l'idée qu'une seule représentation va rassembler plusieurs chaînes associatives.
Alors concrètement, vous avez un exemple pour qu'on vous suive là sur la condensation qui rassemble plusieurs chaînes associatives?
C'est-à-dire que l'exemple est multiple dans les métaphores. C'est les métaphores qu'on utilise, par exemple, pour dire l'amour, pour le désir. Enfin, toute l'expression poétique met en jeu des métaphores. Il y a un fameux film, Il Postino, où il y a un jeune homme qui doit faire une déclaration d'amour et puis il cherche une métaphore parce qu'il y a quelque chose qu'on peut pas dire et qu'on peut dire par une autre voie. Mmh. Alors que le déplacement, c'est le déplacement de l'état affectif, du marqueur somatique, on dirait aujourd'hui, de l'état affectif associé à une représentation qui est déplacée sur une autre représentation, c'est-à-dire une métonymie. Boire un verre, par exemple, hein, c'est-à-dire c'est la partie pour le tout. On dit une partie qui va dire le tout. Bon, je crois que ce qui est essentiel dans cette affaire, c'est cette déformation qui fait le propre du travail du rêve et qui nécessite une interprétation et un travail de signification qui est donné par le rêveur lui-même dans son travail associatif autour du rêve. C'est le rêve, dans l'analyse, c'est l'élément qui permet de mettre en jeu une chaîne associative. Mmh. C'est ça qui est important. Ça permet au patient, au sujet, en analyse, d'associer. Alors que là, on a l'impression qu'il y a une sorte de dictionnaire qui existerait quelque part, qui mettrait en rapport des symboles valables pour tous et des significations valables pour tous.
Ça, ce n'est pas le cas.
Alors, c'est vraiment pas le cas.
C'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire, par exemple, moi j'avais quelques exemples, s'il y a un roi, une reine, un empereur, une impératrice, bon, ça doit être les parents. S'il y a des objets allongés, un tronc d'arbre, un parapluie, un couteau, c'est le sexe de l'homme, les boîtes, les coffrets, les caisses, les armoires, c'est le corps des femmes, les escaliers, les endroits escarpés, descendre, monter, c'est l'acte sexuel. Alors, j'abandonne ces idées-là.
Moi, je pense que c'est une excellente idée d'abandonner tout ça, parce que c'est justement le piège de l'affaire des rêves, et d'ailleurs c'est le débat avec Jung qui a pensé à un moment qu'il existait des symboles archétypaux qui étaient au cœur du rêve. Il ne l'a pas dit comme ça, il l'a dit de manière plus subtile. C'est complexe, mais si vous voulez, l'histoire, c'est les associations du sujet qui sont importantes.
C'est-à-dire que nous codons nos propres rêves, et donc seuls nous sommes à même de les décoder. C'est-à-dire quand on dit le fait de perdre ses dents, le fait de rater son train, tout ça, il y a des symboles un peu collectifs. C'est pas une bonne piste
pour
interpréter ces rêves.
Alors je dirais qu'il y a une intersection entre le sujet et sa culture, hein, et qu'effectivement, une paire de ciseaux évoque plus de choses dans une certaine direction. Mais au fond, tout ça, ce qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'appropriation subjective au un par un de ces symboles, de ces significations collectives. Et là, dans le travail analytique, chaque sujet touche, s'approprie, manie, utilise, fabrique quelque chose qui lui est propre, avec aussi une part énigmatique. Mm-hmm. Parce que dans toute construction, dans toute interprétation en analyse, elle est fondée sur quelque chose qui échappe, quelque chose d'indicible.
Jean-Claude Amezen, cette façon d'imaginer la possibilité de décrypter les rêves, on l'a vu en prenant soin de décrypter quelques associations, de ne pas trop généraliser les symboles, mais est-ce pour autant vraiment scientifique? C'est-à-dire que à quel moment on soumet ça à l'expérience, on teste ça scientifiquement? Est-ce qu'on est dans la théorie? Est-ce qu'on est dans la poésie, dans la philosophie? Ou est-ce qu'on est vraiment dans une science des rêves?
De toute façon, la science des rêves, telle que les neurosciences l'abordent aujourd'hui, a quelque chose de profondément mystérieux. C'est-à-dire que ce qui est étudié, c'est l'état d'activité du cerveau. Ce qui est étudié, c'est les relations entre le dormeur qui est en train de rêver et ce qu'on lui présente du monde extérieur, parce qu'il y a aussi une communication avec le monde extérieur. Mais c'est mystérieux. Moi, je crois que l'originalité, mais la question qu'a posée Freud, pour moi, c'est une question, c'est que jusque-là, pour Platon, pour Aristote, pour Bergson, à la même époque que Freud, au fond, le caractère chaotique, étrange, mystérieux des rêves est dû au fait qu'ils ne sont plus filtrés par la raison. Bergson dit, c'est par paresse, par manque de travail, que les rêves ont ce côté incohérent. Nous rêvons à l'état de veille, parce que en fait, ce que nous voyons, nous l'inventons en partie. Il a des très beaux passages sur la lecture. La moitié des lettres, lorsqu'on lit, sont des lettres qu'on hallucine, parce qu'on se rappelle de ce qu'on connaît, et puis on le voit alors qu'on l'a pas véritablement vu, on a vu que la moitié. Mais dit-il, la différence à l'état de veille, c'est qu'il y a une très grande attention, un très grand travail. Pendant le rêve, tous les souvenirs, tous les désirs arrivent en désordre. L'originalité, à mon sens, de Freud, c'est d'avoir dit que ce désordre n'est pas dû à une absence de travail de l'esprit, mais à un travail particulier qui vise justement à rendre obscur ce qui pourrait paraître trop évident.
Oui, mais
d'où son idée ensuite de l'analyse, qui est en fait de détisser ce qu'il appelle le travail du rêve. Alors, est-ce que le caractère incohérent, complexe, personnel, énigmatique est dû, je dirais, à une espèce de jeu d'absence de concentration, ou est-ce qu'il est dû au contraire à un travail qui vise à le rendre incohérent? Je crois que c'est une question, mais je trouve que c'est extrêmement original d'avoir pensé que ce qui paraît être du désordre est créé par une énergie et par une force. Ça ouvre des questions que la simple idée de se dire tiens, c'est en désordre parce qu'il n'y a pas eu de travail de mise en ordre ne permet pas de poser. Mais je crois que aujourd'hui les neurosciences, par exemple, là, je dirais l'approche la plus expérimentale, ne permet pas de répondre à cette question. Il y a des visions qui partent d'un postulat semblable, et il y a des visions qui partent au contraire. C'est comme la vision d'un neurobiologiste qui s'appelle Alan Hobson, qui est que ce désordre, c'est... Alors c'est intéressant parce que ça ramène aussi à, non seulement à la petite enfance, mais presque à la prénaissance. Ça serait au fond le rêve, ça serait la forme la plus élémentaire de l'activité consciente du cerveau quand ses relations avec l'extérieur sont quasiment inexistantes. Ça serait la conscience qui se met en route avant d'être confrontée au monde extérieur. Ça serait ce que le cerveau produit comme vision avant que les yeux ne voient. Et donc vous voyez qu'il y a à la fois de la structure... Et puis, en même temps, un certain côté chaotique. Donc, une petite partie de ce que nous appelons la mémoire, c'est la mémoire consciente, qu'on appelle la mémoire déclarative. C'est ce dont je peux dire que je me souviens. Mais l'essentiel de la mémoire est une mémoire inconsciente. Elle nous a aussi modifiés, mais nous ne le savons pas. Donc, il y a des tas de choses que nous enregistrons, mais sans réaliser que nous l'enregistrons, nous focalisons notre attention. Donc, en fait, nous sommes modifiés en permanence par ce dont nous nous souvenons que nous l'avons vécu, et par ce dont nous ne nous souvenons pas que nous l'avons vécu. Et je pense que c'est important. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où ces souvenirs nous ont modifiés, ces souvenirs vont aussi provoquer des mécanismes mentaux, des comportements différents, qui, à leur tour, vont modifier la structuration de notre cerveau. Donc ce dialogue, le généticien Richard Leventine disait « L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, et chaque être vivant est à la fois le lieu et le produit de ces interactions. » Et je crois que cette plasticité du cerveau le montre
François
parfaitement.
François Ansermet, une minute pour conclure.
Non, je vais pas conclure, je vais ouvrir.
C'est très
en
bien,
disant que ce que Jean-Claude Amaisen vient de dire sur la mémoire, on peut tout à fait le dire sur l'inconscient. Il y a deux versions de l'inconscient. Lacan l'avait théorisé comme ça. Un côté, l'inconscient comme système de traces, déterminé par le passé, désir indestructible. Et de l'autre côté, un inconscient comme du non-réalisé, inconscient discontinuité. Freud avait parlé du troisième inconscient. Lacan dit inconscient tuqué, inconscient tourné vers l'avenir. Et qui est ce mouvement où on est sans arrêt en train de s'inventer. En clinique, on cherche l'invention du sujet. Et on cherche sa solution, on cherche sa réponse, et pas seulement ses causes. Si on reste avec une idée fixe de l'inconscient ou de la mémoire, on fait de la psychanalyse une prédiction du passé, alors que la psychanalyse est une invention de l'avenir.
Est-ce qu'on peut imaginer un jour que naisse une biologie de l'inconscient où il faut que psychanalyse et neurosciences continuent de discuter sans fusionner ?
Je pense on va donner chacun sa réponse. Je dirais on peut faire peut-être, si on dit que les traces se réassocient, qu'il y a une mémoire dynamique, qu'il y a un inconscient dynamique, un inconscient discontinuité, peut-être que ça ouvre à une biologie de la discontinuité, plus qu'une biologie de l'inconscient.
20 secondes, Jean-Claude Amaisen.
Je pense qu'il y a aujourd'hui une biologie et des neurosciences de l'inconscient. La question est-ce que le contenu, les modalités d'organisation de cet inconscient que les neurosciences permettent de mettre en évidence, jusqu'où est-il en rapport avec le contenu de l'inconscient que Freud a théorisé ?
C'était le NRV France Inter plus de Freud, deuxième épisode, interprétation et science des rêves. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, Freud et les femmes, il leur doit beaucoup, mais les a-t-il comprises ? Je vous souhaite le bonsoir.